Les maudits sont sans importance. Sans importance. Sont sans importance. Les mots sont sans importance.
Bonjour, la diseuse de mots. Aujourd'hui, je vous propose un dernier extrait du livre La mythologie des arbres de Jacques Brosse. La semaine prochaine, nous commencerons un nouveau roman. Dans la vénération que portaient aux arbres, nos ancêtres entraient pour une part, mais pour une part seulement, les services qu'ils leur rendaient. Aussi honoraient-ils particulièrement les fruitiers. Cependant, leur fécondité avait décru d'une manière considérable depuis les temps primitifs où ils procuraient aux humains l'essentiel de leur subsistance. Virgile, reflétant une croyance très répandue, fait naître l'agriculture de la pénurie qui se produisit lorsque les fruits des arbres et le gland des forêts sacrées commencèrent à manquer. L'âge d'or n'était plus qu'un souvenir. Avec sa fin avait commencé une décadence à laquelle pouvaient seuls remédier les travaux des hommes. Désormais, pour s'assurer récolte suffisante, il fallait cultiver les arbres, les soigner. Au moment où écrivait Virgile, l'arboriculture était en effet devenue une véritable technique décrite par les écrivains dont s'inspira l'auteur des Georgiques, tels qu'Athan le Censeur et Varron ou ses contemporains Columelle et Pline. Dans le livre qu'il consacre aux arbres fruitiers, ce dernier parle de nombreuses greffes pratiquées depuis peu qui ont engendré de nouvelles variétés de fruits et particulièrement des prunes que Caton, un siècle plus tôt, ne cite pas. Pline mentionne aussi l'introduction d'espèces fruitières auparavant inconnues. Le cerisier, amené du pont par Lucullus en 73 avant Jésus-Christ, le pêcher et l'abricotier venus d'Orient, que l'on commençait seulement à cultiver en Italie. Pour les anciens, les fruits étaient des présents des dieux. Les Latins avaient même une déesse, Pomone, qui présidait à leur maturation. Ils lui avaient associé un dieu, probablement antérieur, peut-être même étrusque, Vertumus, de vertere, changé, qui présidait au changement des saisons et veillait avec un soin particulier sur les arbres fruitiers. Qu'il y ait eu quelques rivalités entre les deux concurrents, la jeune Pomone et le vieux Vertune, c'est ce que laisse supposer la mythologie. Désirant séduire la jeune fille, Vertume dut prendre les traits successifs d'un laboureur, d'un vigneron et d'un moissonneur, mais sans résultat. Changeant alors de sexe, il se présenta sous les apparences d'une vieille femme et cette fois vint à bout de son dessein. Fruit vient de fructus. En latin, ce mot ne désigne pas le fruit, mais proprement dans cette langue de juriste, ce que nous appelons usufruit, le droit de percevoir et d'utiliser les produits d'une chose dont la propriété reste à un autre. Plus généralement, fructus est le revenu d'un bien, puis le résultat, l'avantage, la récompense. La racine européenne, brugue, qui a donné fructus, possède un sens plus étendu. La jouissance que procurent les biens de la terre, fruge, ce sont ses productions et fructuosus, ce qui est fécondé, fertile, ce qui rapporte, d'où notre adjectif fructueux. Retenons ce sens originel. Le fruit est objet de jouissance, c'est aussi le produit, l'enfant de l'arbre, comme dans le fruit de vos entrailles, du « Je vous salue Marie ». En latin, le fruit se dit « pomune » et l'arbre fruitier, pomus. La pomme, malum, en latin, est donc en notre langue le fruit par excellence, et en général aussi, puisqu'on dit pomme de pin et pomme de terre. Pour nommer le fruit, le grec a un mot plus riche encore, d'acceptations diverses. Carpos désigne non seulement le produit de la terre et des plantes, en latin carpo carpere veut dire cueillir, détacher, arracher, la graine, la semence, mais le rejeton d'un animal et aussi le poignet, comme si la main était le fruit du bras. Rappelons que le mot « date » vient du grec « dactylos », doigt. Peut-être faut-il rapprocher Carpos de l'énigmatique « car » qui a donné « caria », la noix, et auquel semble apparenté « caro carnis » qui en latin ne signifie pas seulement la chair, mais aussi la pulpe du fruit et même la partie tendre et interne de l'arbre, celle où passe la sève, l'aubier. Plus proche que nous de la nature, plus sensible surtout à son caractère sacré, les anciens conservaient une fraîcheur du regard qui les faisait s'émerveiller encore devant la mystérieuse genèse des fruits, devant les usages multiples que leur offrait leur très grande diversité, puisque les glands et les pommes, les amandes et les figues, les olives, les noix et les châtaignes sont également des fruits, mais nés chacun d'une évolution qui lui est propre, possédant une structure différente. Ainsi, le gland est un akène, du grec « aprivatif » et « kernein » « ouvrir », c'est-à-dire une très grosse graine unique sortant d'une cupule, et il en va de même de la faîne du hêtre, de la châtaigne dans sa bogue piquante et de la noisette enfermée dans une coque ligneuse, mais non de la noix et de l'amande, lesquelles sont des drupes dont la partie charnue est incomestible et dont nous consommons la graine incluse dans le noyau. Le mot vient de noix. Elle est généralement double dans l'amande, mais l'une est souvent avortée et unique dans la noix où elle forme deux gros cotylédons oléagineux. Dans les autres drupes, l'olive, la cerise, la prune, la pêche, l'abricot par exemple, c'est au contraire l'enveloppe juteuse que l'on mange. Dans la pulpe des baies, du latin bacca, on trouve non un noyau unique, mais de multiples pépins, du latin pipina, verge du petit garçon. Bien que les pommes et les poires en contiennent aussi, ce sont des fruits d'un type tout différent, auxquels les botanistes donnent le nom de pyridion, mot pseudo-grec issu du latin pyrus, la poire. Ici sont visibles encore les cinq carpelles du pistil floral, devenus les cinq loges du fruit. À ce type ressortissent les coins, les nèfles, les sorbes, les cornes et les senelles des aubépines. De tous les fruits que consommaient les Grecs et les Latins, le plus étrange, le plus mystérieux, était la figue. Mais bien qu'elle ait joué chez eux un rôle majeur, ils ne parvinrent pas, semble-t-il, à en percer le secret. Pour les Grecs, il n'était pas de fruit plus utile que l'olive, et l'on ne peut guère concevoir la civilisation hellénique et le pays lui-même sans l'olivier. Dans l'Antiquité, comme aujourd'hui, les olives étaient consommées soit noires, c'est-à-dire mûres, après qu'elles aient macéré quelque temps dans l'eau afin de perdre leur âpreté, soit vertes et alors lessivées, puis laissées dans l'eau douce et légèrement salée. Exprimer des fruits par pression, l'huile surtout était un produit de première nécessité. On ne l'utilisait pas seulement dans la cuisine, mais, usage presque aussi important et plus noble, pour l'éclairage. Ainsi, déjà dans la Crète minoenne, d'innombrables lampes en argile, en stéatite, en gypse, en marbre, indiquent assez comment on s'éclairait dans les palais comme dans les chaumières. Leur capacité dénote un véritable luxe d'éclairage. On ne visait pas à l'économie. L'huile d'olive servait également aux soins des corps, qu'elle faisait briller dans la palestre, leur donnant le poli du marbre. Même les dieux et les héros dans l'Odyssée aiment à s'en frotter afin de conserver leur immortelle et lumineuse beauté. Aussi, dans la Grèce homérique, enduisait-on d'huile leurs statues. L'huile d'olive formait encore la base des onguents et des parfums. On s'en servait pour la toilette des morts, pour les onctions sacrées, en médecine et en magie. Enfin, on en faisait offrande aux dieux. La culture des oliviers, la récolte de leurs fruits et le pressage de l'huile avaient dans la vie antique une très grande importance, et cela dès l'époque égéenne pré-hellénique. Paul Faure, qui a étudié la vie quotidienne en Crète au temps de Minos, en se référant très utilement aux survivances actuelles, nous fournit sur ce sujet d'utiles précisions. La récolte des olives était à la fois la dernière et la plus longue de l'année. Elle commençait au mois de novembre et ne finissait qu'au début de mars, lorsque les fruits trop mûrs tombaient d'eux-mêmes. Quelques olives étaient cueillies à la main, mais les branches hautes devaient être gaulées par les hommes. Les femmes et les hommes ramassaient les olives sur un sol bien nettoyé et même recouvert de draps, les séparaient des feuilles et des fragments de tiges. Comme lors de la moisson et de la vendange, tout le petit monde de la ferme se retrouvait rassemblé dans la plantation. Trois bonnes ouvrières pouvaient ramasser, au cours de la saison, de quoi faire une tonne d'huile. Les fruits destinés à être conservés et consommés étaient mis dans la saumure. Les autres étaient concassés dans un mortier de bois, avec un pilon de bois, si l'on en croit le poète Hésiode. La pâte ainsi obtenue, mise dans des sacs de crin, prenait place dans une sorte de cuveau à gargouille et un entassement de madriers servait de presse. Tel était encore l'usage dans bien des villages jusqu'à nos jours. Je m'y colle dans le petit bois de Saint-Amand. Je t'attrape, tu t'y colles, je me cache à toi maintenant. Y'a un arbre, pigeon vole dans le petit bois de Saint-Amand. Où tournent nos rondes folles, pigeon vole, vole, vole au vent. Dessus l'arbre, l'oiseau vole et s'envole, voilà le printemps. Y'a nos 15 ans qui s'affolent dans le petit bois de Saint-Amand. Vous pouvez me retrouver tous les mardis à 9h45 sur Jet FM ou en podcast. Laissez-moi vos impressions, vos commentaires, peut-être vos suggestions aussi, pourquoi pas, à propos de ma chronique, en m'écrivant à ladiseusedemots@gmail.com. ladiseusedemots tout attaché @gmail.com. À bientôt.